Bienvenue à Question d'aujourd'hui, émission qui vous est présentée par l'Office de catéchèse du Québec en collaboration avec Radio-VM et Radio-Galilée. Au micro, Renaud Grégoire, toujours heureuse de vous retrouver encore cette semaine. Et nous avons un invité, je suis très heureuse de le recevoir, c'est Monseigneur Guy Charbonneau, prêtre des missions étrangères et évêque émérite de Choluteca au Honduras. Bienvenue, Monseigneur.
Merci beaucoup de votre accueil à ce grand programme de radio pour tous nos auditeurs. Un salut à tous nos auditeurs de Radio Ville-Marie et Radio Galilée.
Mais merci beaucoup à vous d'être là. Je vous prends comme un peu entre deux séjours au Honduras. Vous passez par Pont-Vio, vous passez par le séminaire des missions étrangères, la Société des missions étrangères, qui vit aussi des grands changements. On en reparlera. Mais Monseigneur Charbonneau, vous avez été aussi, il faut le dire, supérieur général de la Société des missions étrangères. Et c'est là qu'on est venu vous chercher comme évêque de Choluteca au Honduras. Et c'est un pays que vous connaissiez.
Oui, ah oui. Je suis arrivé au Honduras à la fin de 1970, donc 54 ans. Et j'ai travaillé comme prêtre missionnaire là-bas au Honduras jusqu'en 2003. J'étais une trentaine d'années au Honduras à travailler comme missionnaire et ensuite j'ai été au conseil central de la Société des missions étrangères durant 10 ans. Et quand j'étais pour terminer ma fonction comme supérieur général aux missions étrangères, ben j'ai reçu un appel du nonce apostolique qui me demandait si j'acceptais d'être évêque à Choluteca, qui est un des 11 diocèses du Honduras. Et j'ai accepté et je suis reparti pour l'Honduras en 2013. J'ai été ordonné évêque là-bas et j'ai travaillé comme évêque là durant 10 ans, de 2013 à 2023. Et comme évêque à Choluteca.
Mais ce n'est pas parce que vous êtes un évêque émérite que vous ne faites rien, et on reviendra là-dessus. Mais d'abord, on connaît très peu le Honduras. C'est un peu un pays entre le Guatemala, le Nicaragua, au sud du Mexique. Pouvez-vous nous décrire un peu le Honduras hier et aujourd'hui?
Alors, si, le Honduras, certainement que c'est un pays qui, traditionnellement, ne fait pas parler beaucoup de lui parce que il n'y a pas eu de grande guerre civile à l'intérieur de ce pays-là. Contrairement au Salvador, au Nicaragua et au Guatemala aussi. Non? Alors, c'est un pays qui, surtout agricole, mais de plus en plus, les gens ont émigré vers la ville, alors les villes grandissent de plus en plus. Alors, ce qui fait que, on peut dire, les gens viennent pour chercher du travail, mais ils n'en trouvent pas facilement. Et à cause de ça, il y a beaucoup de monde qui émigre, qui s'en vont du pays. Pourquoi? Par manque de travail, par violence, extorsion, menaces, aussi pour trouver les meilleures conditions de vie pour la famille, pour les enfants, pour les études de leurs membres. Même des gens qui sont des professionnels, des universitaires, ont de la difficulté à trouver de l'ouvrage. Même des gens qui sont bien formés, quand ils arrivent sur le marché du travail, c'est pas facile, il n'y a pas suffisamment d'emplois. Et ça prend une influence politique très souvent pour trouver du travail dans tout ce qui est appareil gouvernemental.
Alors c'est là que c'est difficile parce que c'est pas tant la reconnaissance des diplômes et de la compétence que l'option politique qui permet aux gens de pouvoir rentrer parce qu'ils ont un ami, parce qu'ils font partie d'un parti politique, c'est ce que je comprends.
Oui, exactement. Et même des gens qui émigrent ne sont pas tous des gens très, très pauvres. Mais ils se trouvent à avoir des salaires qui ne suffisent pas aux besoins de leur famille. Alors, c'est pour ça qu'il se trouve à émigrer. L'entreprise privée, et bon, c'est une entreprise, il y a quand même plusieurs organisations, plusieurs des industries, mais ils ne sont pas très, très proactifs. Ils n'osent pas trop non plus investir de l'argent dans leurs entreprises pour améliorer, pour augmenter, parce qu'il y a toujours cette incertitude politique, incertitude qui fait que les gens n'osent pas investir pour ne pas perdre tout ce qu'ils ont. Parce qu'il y a une instabilité politique. Et même les investissements étrangers, à cause de cette instabilité politique, n'est pas très grande. Les investisseurs étrangers n'osent pas investir par peur de perdre beaucoup d'argent et beaucoup de leurs moyens. Alors, c'est une situation difficile. Beaucoup de corruption aussi. Corruption à tous les niveaux. C'est comme un péché originel, on pourrait dire, la corruption.
Un péché originel qui est dans plusieurs pays.
Ben, c'est ça. Alors, quand on est dans l'engrenage, c'est facile de tomber. Si on veut continuer à avoir du travail puis à avoir des promotions, pratiquement, il faut très souvent entrer dans le système de corruption. Et les gens qui sont vraiment honnêtes n'entrent pas là-dedans, puis ils perdent leur emploi ou ils s'en vont du pays.
Monseigneur Guy Charbonneau, vous êtes évêque émérite de Tchorlouteka, donc pouvez-vous nous parler de cette maison qui a été ouverte et qui porte votre nom?
Ah oui, oui. Et c'est intéressant parce que le centre d'attention pour les migrants porte mon nom. Pourquoi? L'initiative est venue de Caritas. Caritas, c'est comme développement et paix ici, hein, au Canada. Et il y avait une maison qui était un peu délabrée. Alors, ils ont reçu de l'argent pour pouvoir arranger la maison. Bon, ça a bien fonctionné. Et l'idée, c'était d'ouvrir un centre d'accueil pour les immigrants. Alors, j'ai donné mon accord à ça. Puis, le directeur de Caritas de Tchorlouteka a dit, ben, on veut donner votre nom à cette maison-là. Mais j'ai dit, écoute, d'habitude, on donne les noms à des maisons comme ça à des gens qui sont morts.
Ce qui n'est bon, pas votre cas.
Ils sont morts. Alors, pourquoi pas me donner un autre nom, là? Mais ils ont dit non. Ça prend une maison avec un nom de quelqu'un qui est vivant et puis qui est connu dans la petite ville de Tchorlouteka, c'est à peu près 140 000 habitants, qui est connu et puis que ça va donner une visibilité au centre. D'ailleurs, c'est juste en face de l'évêché. Alors, des fois, moi, j'étais dans mon bureau, puis je regardais par la fenêtre et je voyais des gens entrer au centre d'attention.
Alors, ce centre-là, quel est l'objectif d'accueillir des familles immigrantes qui sont en route vers le nord, le Mexique, les États-Unis, le Canada?
Oui, exactement. C'est un phénomène, c'est complexe, l'immigration, parce qu'il y a des milliers de personnes du Honduras qui partent vers le nord, vers les États-Unis, le Mexique et les États-Unis, à cause de ce que j'ai dit, la corruption, l'insécurité. Mais il y a énormément de gens qui viennent d'Amérique du Sud, qui passent par le Honduras, par le Nicaragua, par le Guatemala, pour eux aussi s'en aller vers le nord. Bon, même il y a des gens qui viennent d'Asie, du Bangladesh, de l'Inde, de l'Afrique, qui passent par chez nous.
C'est étonnant. C'est très étonnant. Ça veut dire qu'ils ont tout un parcours migratoire.
Oui.
Des gens de l'Inde qui passent par le Honduras, par chez vous, ou des gens d'Afrique, ça veut dire que le chemin n'est pas direct là, pour aller vers le nord.
C'est ça. Pourquoi ils passent par chez nous? Parce que souvent, il y a des ententes entre les pays. Supposons que quelqu'un vient du Bangladesh, puis qui n'aurait pas besoin de visa pour aller en Équateur, par exemple. L'Équateur, c'est un pays où c'est facile d'entrer. Le Brésil aussi, il y a beaucoup de gens d'Haïti qui sont passés par le Brésil et qui qui ont été accueillis là, mais qui sont restés 2-3 ans, et ensuite, ils sont repartis parce à cause de la situation du Brésil, qui à un moment donné, ça a été plus difficile au plan économique. Puis, comme c'était des immigrants, ben, il était plus difficile d'avoir de l'ouvrage. Alors, ils sont partis du Brésil pour aller en Équateur, et l'Équateur, ensuite, ils remontent vers les États-Unis. À pied, en autobus, en faisant du pouce, comme on disait autrefois, pour s'en aller arriver aux États-Unis. Donc, nous les accueillons. Et encore dernièrement, avant de repartir, il y a 2 semaines du Honduras, j'ai communiqué avec le responsable de cette maison d'accueil, du centre d'accueil pour les immigrants, et c'est toujours plein pratiquement. Bon. Ils ont fait même des allonges pour accueillir plus de monde. C'est peut-être 50 personnes, 60 personnes qui sont là en même temps. Il reste 2-3 jours. Il faut qu'ils obtiennent du bureau d'immigration de Choluteca un sauf-conduit pour pouvoir circuler à travers le pays. Une fois qu'ils ont le sauf-conduit, là, ils peuvent traverser le pays et s'en aller jusqu'à la frontière du Guatemala. Et la même chose rendue au Guatemala, ben, c'est la même chose aussi qui se passe.
On a cette impression, Monseigneur Guy Charbonneau, que les gens partent de leur pays, traversent rapidement le plus possible plusieurs pays pour se rendre au nord, mais ce que vous nous dites, c'est qu'ils peuvent rester plusieurs années dans un pays, et ensuite, si la situation vient plus difficile, si c'est moins intéressant, et ils peuvent pas atteindre leurs objectifs de soutenir leur famille, d'élever leurs enfants, d'éduquer leurs enfants, et d'avoir eux-mêmes les ressources pour rester, et bien, ils peuvent aller dans un autre pays, ou ils vont aller dans un autre pays, mais en ce sens-là, il reste toujours des étrangers.
Exactement, et pour eux, ce n'est pas facile d'avoir un statut, on pourrait dire, légal de résidence dans un autre pays, par exemple au Mexique. C'est pas facile. Et Honduras non plus. Les gens qui passent par le Honduras, ce sont des gens, en général, des gens pauvres. Et ils sont dans un pays pauvre aussi. Il n'y a pas d'emploi. S'il n'y a pas d'emploi pour les Honduriens, ben, c'est pour les étrangers encore moins. Alors, par contre, ben, je connais des gens qui sont passés par le Mexique, qui sont restés au Mexique, parce qu'ils ont réussi à avoir un certain statut légal qui leur permet de travailler, et ensuite, ben, ils pensent moins de se rendre aux États-Unis parce qu'ils ont déjà un travail au Mexique. Puis le Mexique, ben, c'est un milieu latino-américain, donc c'est plus facile pour eux, la culture est plus semblable.
Oui. Monseigneur Guy Charbonneau, vous parliez aussi, j'ai eu l'occasion de vous entendre là-dessus, des paysans qui doivent quitter leur terre parce qu'elle est trop sèche, elle ne produit pas, soit à cause de la sécheresse ou à cause des ouragans même. Pouvez-vous nous parler de ça un peu? J'aimerais vous entendre là-dessus.
Oui, les changements climatiques, ça affecte tout le monde, partout, mais spécialement, disons, les paysans, parce que il y a des changements, supposons qu'il y a les semailles, on est dans le temps des semailles actuellement, puis s'il y a une sécheresse, les gens perdent tout. S'il y a trop de pluie, pas nécessairement des ouragans c'est encore pire, mais trop de pluie, ça aussi, ça va ruiner les
récoltes.
Les récoltes, oui. Alors, les gens, ils doivent emprunter très souvent, emprunter de l'argent pour pouvoir acheter des semailles ou pour acheter des fertilisants. Et vous savez que les fertilisants, en grande partie, ça vient de Russie. Bon, alors avec les problèmes de à cause de la guerre entre l'Ukraine et la Russie, ben c'est très difficile ça coûte plus cher. Tout est plus cher pour les paysans.
Donc il y a un phénomène d'endettement des paysans.
Oui.
Et c'est comme un cercle vicieux, si je comprends.
Oui. Oui, parce que déjà, juste pour l'inversion sur leur terre, ça coûte de l'argent. Puis s'ils n'ont pas de l'argent à cause de la sécheresse ou des inondations, ils ne peuvent pas remettre, ben là, les dettes augmentent et puis à un moment donné, les gens pensent, essaient de le tout pour le tout, c'est mieux d'émigrer pour se rendre dans un autre pays où au moins peut-être qu'il y a l'ouvrage où au moins ils peuvent rembourser leurs dettes.
Faut dire aussi, Monseigneur Guy Charbonneau, que oui. Le Honduras, c'est un pays très montagneux, ce qui augmente, je veux dire, la...
Oui, ça augmente les difficultés, parce que c'est pas la même chose de semer dans une plaine où tout est fertile, tout est beau, que semer dans une montagne où il y a beaucoup de roches et puis c'est très escarpé. Alors, c'est très difficile pour les gens. La couche de
terre fertile.
Oui, c'est ça, est très mince.
Est très mince. Hein.
Parce que quand il pleut très fort, ben c'est la terre s'en va, hein, à cause de. Alors, quand il y a eu l'ouragan Mitch en 1998, ben ça a détruit énormément l'humus des terres, là, des terres fertiles, ouais. Ah, c'est très difficile. Mais on s'organise pour pouvoir aider les paysans, avec des progressuels, soit avec des ONG. Il y a beaucoup d'ONG, mais l'Église travaille très souvent comme pour unifier, pour pas que chacun travaille les mêmes projets avec les mêmes gens, puis ça fait de la confusion.
Vous êtes toujours à l'émission Questions d'aujourd'hui. Nous recevons Monseigneur Guy Charbonneau, prêtre des missions étrangères et évêque émérite de Choluteca au Honduras. Nous avons la chance de pouvoir lui parler alors qu'il est de passage au Québec et particulièrement avec ses confrères de la Société des missions étrangères. Monseigneur Guy Charbonneau, justement, vous parliez rapidement, il y a quelques instants, du rôle de l'Église. Alors, que fait l'Église du Honduras pour soutenir les gens?
Hey, c'est une belle question. Et j'ai été assez longtemps responsable comme évêque de la pastorale sociale au Honduras. Alors, je peux vous dire que dans cette pastorale sociale, il y a plusieurs organismes de l'Église catholique. Puis aussi, on travaille en alliance avec d'autres organismes qui ne sont pas nécessairement de l'Église catholique, mais avec qui on peut faire des alliances parce que il y a des projets similaires, il y a une idée semblable. Bon, alors, Caritas, c'est certainement un organisme de l'Église catholique qui non seulement donne de l'argent ou donne des produits de première nécessité quand il s'agit d'avoir, quand il y a des inondations ou quand il y a des sécheresses, mais aussi se trouve à organiser les gens puis essayer de les faire prendre conscience de leurs droits, de leur identité, des lois du pays et qui leur permettent de pouvoir se défendre vis-à-vis avec ces lois et de promouvoir leur propre communauté. Alors, il y a des délégués de la parole, mais il y a des gens qui ne sont peut-être pas nécessairement de l'Église, mais qui ont quand même un désir de collaborer disons, au développement intégral de leur communauté. Quand on parle de communauté, c'est un petit village, c'est 50 personnes, 100 personnes, 200 personnes qui forment ensemble une communauté humaine. Et puis, l'Église, à travers les délégués de la parole aussi, ce sont des hommes et des femmes qui se trouvent à, non seulement à présider des célébrations sans Eucharistie, mais aussi à être des animateurs de communauté, qui s'intéressent aux problèmes des gens, puis qui essaient de promouvoir l'unité et la solidarité entre les gens. Ça, c'est un exemple que je peux vous donner à travers. Mais Caritas, on a plusieurs projets dans ce sens-là. Entre autres, on a un projet avec Développement et Paix. Bon, qui
est l'organisme des évêques du Canada, Développement et Paix.
Exactement. Et puis, ça fait quand j'étais évêque encore là-bas, ça fait 7-8 ans, je pense, qu'on a cet accord avec Développement et Paix qui nous aide pour vraiment faire prendre conscience aux gens de leurs droits, de leur dignité, de ce qu'ils peuvent faire par eux-mêmes et qu'ils peuvent avoir ce qu'on appelle une incidence vis-à-vis des organismes, vis-à-vis des municipalités, des mairies et, les gouvernements, oui, éventuellement aussi.
Monseigneur Charbonneau, j'aimerais vous entendre justement sur les délégués de la parole. Ça, c'est un cadeau, je pense, de la Société des missions étrangères au peuple hondurien. Pouvez-vous nous raconter un peu l'histoire des délégués de la parole?
Ah, ça, c'est une histoire d'amour. Parce que le premier évêque de Choluteca, Monseigneur Marcel Gérin, il avait participé au Concile Vatican II, la dernière session du Concile. Et dans le Concile, on disait, et là où il n'y a pas de prêtre pour célébrer l'Eucharistie, il est souhaitable qu'il y ait des gens, des diacres ou bien des laïcs bien préparés qui puissent célébrer la parole de Dieu dans ces communautés-là. Monseigneur Gérin, il a écouté ça, puis il a dit, c'est ce qu'il nous faut. C'est un homme créateur. Et c'est ce qu'il nous faut au Honduras, parce qu'il manque de prêtres. Et il a suscité, en 1966, la première Semaine Sainte avec des délégués de la parole, des hommes, c'était tous des hommes à ce moment-là, 18. Ils ont formé un peu à la course, un peu avant la Semaine Sainte, puis ils leur ont donné le matériel un peu de, comme on a les célébrations de la Semaine Sainte, puis allez dans vos communautés. Alors, ils ont fait une évaluation après, et Monseigneur Gérin pensait que c'était terminé, bon, la Semaine Sainte est passée, peut-être ça sera l'an prochain. Non, les gens veulent, dimanche prochain, avoir une célébration aussi. Alors, ça a continué comme ça. On a préparé du matériel pour les communautés, essayant d'adapter notre liturgie, qui est quand même assez élevée, on peut dire, pour nos gens, surtout des gens qui savaient pas lire et écrire, ou dans ce temps-là, en 1966, il y avait peut-être 50% de la population qui était illettrée. Alors, ça a été un mouvement extraordinaire. Les gens sont entrés là-dedans. Et les gens ont... Les délégués de la parole, pour pouvoir, il fallait qu'ils apprennent à lire et à écrire. Puis ils l'ont fait à travers les écoles radiophoniques que le père Jean-Paul Guillette a fondées en 66, autour de là. Alors les gens, les délégués de la parole, c'est des hommes mariés, en général, et qui ont accepté cette responsabilité-là. En même temps, non seulement pour célébrer la parole le dimanche, mais aussi pour animer leur communauté. Alors, ça a été actuellement, dans le pays, Honduras, on est autour de 18 000 délégués de la parole, hommes et femmes. Surtout dans les campagnes, mais aussi en ville, parce que la ville, ça grossit énormément. Par exemple, Tegucigalpa, c'est 1,5 million d'habitants. Alors, il y a beaucoup de délégués de la parole dans des communautés, parce que les gens ne peuvent pas toujours aller à la messe. C'est surtout de petites communautés, on pourrait dire des petites communautés ecclésiales de base, là. Alors, c'est très vivant. C'est très vivant. Autant en campagne, en ville aussi.
Et dans ces rencontres qui sont animées par ces délégués de la parole, donc la parole de Dieu est au centre, mais est-ce qu'ils peuvent apporter, relire leur vie à la lumière de la parole? Est-ce qu'ils peuvent apporter les problématiques qu'ils vivent? Je pense particulièrement aux gens qui sont dans la campagne, qui sont isolés. Est-ce qu'il y a un lien entre la foi et la vie?
Oui, je pense que oui. Oui, certainement qu'il existe cela. Et parce qu'on a aussi formé, dans Choluteca, des communautés, des conseils de pastoral locaux, où il y a des responsables de chacun des domaines de pastoral. Par exemple, le délégué de la parole est là, la catéchète, le responsable de la liturgie, le responsable des jeunes, le ou la, je veux dire, responsable de la pastorale des malades. Alors, ensemble, ils se mettent, une fois par mois, par exemple, à dialoguer sur les problèmes qu'il peut y avoir, évidemment. Et il y a aussi, on travaille toujours avec la lectio divina.
Ah,
la lecture de la parole de Dieu selon les moines d'autrefois. Hein? Alors, une lecture actualisée. Bon, on essaie de voir la parole et ensuite l'appliquer à notre vie. Alors, ça s'est développé depuis les 20 dernières années, on pourrait dire. Et puis, certainement que ce n'est pas seulement une discussion de problèmes, mais c'est à la lumière de la parole de Dieu.
Vous nous montrez, Monseigneur Guy Charbonneau, une église très vivante au Honduras.
Oui, oui, certainement, très très vivante. Et il y a beaucoup de... Les femmes sont engagées, les laïcs sont engagés, et les prêtres aussi, évidemment, les évêques. Mais quand on a des assemblées de pastorales, je me souviens qu'on insiste toujours pour qu'il y ait au moins la moitié des participants soient des laïcs. Okay. Au moins la moitié. Et plus même. Oui.
Monseigneur Guy Charbonneau, oui. Il nous reste une minute. Parlez-nous du centre de formation missionnaire qu'a la Société des missions étrangères à Tegucigalpa, qui est la capitale.
Eh oui, ça fait depuis l'an dernier que la Société des missions étrangères a mis sur pied un centre de formation missionnaire pour des laïcs missionnaires. Et j'y collabore personnellement parce que il y a 4 jeunes qui sont là, un homme et 3 femmes, et qui sont en train d'acquérir une formation. Et le 24 de ce mois, le 24 mai, aura lieu la clôture de l'année de formation, qui a duré 9 mois. Et j'ai personnellement accompagné 2 de ces 4 personnes-là, spirituellement. Alors, il y a un accompagnement spirituel, il y a un accompagnement psychologique aussi, il y a la formation qui se donne, des cours, ils ont des apostolats aussi. Et au centre de formation, il n'y a pas de cuisinière ou cuisinier. C'est eux qui préparent. Et il y a 2 accompagnatrices, 2 missionnaires, Beatrice Medina, qui est une missionnaire laïque associée, et Fanny Moradel, qui a été associée avec nous au Kenya, mais qui continue à travailler, qui travaille avec nous à notre service. 2 personnes extraordinaires. Alors, on a essayé cette première année de formation et à partir du mois de septembre, normalement, il y aura une 2e étape avec d'autres personnes.
Monseigneur Guy Charbonneau, prêtre des missions étrangères, évêque émérite de Choluteca au Honduras, un grand merci.
Bienvenue et ça m'a fait plaisir d'être avec vous et de partager ce vécu qui est encourageant pour l'Église, non seulement du Honduras, mais l'Église universelle, l'Église du Québec, parce que en prenant compte de différentes réalités, ben ça nous ouvre à d'autres, à l'Église universelle, puis on peut s'encourager mutuellement comme Église.
Merci beaucoup. L'Office de catéchèse du Québec reçoit le soutien de la Fondation Lucien Labelle pour la réalisation de l'émission. Merci à Yannick Caron pour Radio Galilée et Lysandre Duplé pour Radio VM. Au micro, Renaud Grégoire, merci de votre présence et je vous dis à bientôt.